Bonjour, Marco, compte à rebours. Comme toujours, des contes. Et aujourd'hui, pas trop de contes, enfin, je dis des contes, des histoires. Hein. On a des fois des nouvelles, des blagues. Aujourd'hui, on est plutôt dans le récit de vie. Et oui, du vivant, avec cette quatrième partie, si je ne me trompe pas, c'est la quatrième émission sur les moulins et les mouliniers. Et notamment, bien sûr, aujourd'hui, on va donner vraiment la parole, beaucoup, beaucoup, à un moulinier du coin qui s'appelait Gilbert Gavens et qui a raconté son histoire à Régis Granier, un livre aux éditions Loubatière, pour ceux que ça intéresse. Et donc, à partir de là, on va écouter ce qu'il nous raconte. Mais, il n'y a pas de hasard dans la vie. Souvent, les choses se télescopent, puisque dans ces histoires de moulins, forcément, à un moment donné, on va parler d'eau, bien sûr, et on va parler d'inondation, parce que les moulins qui sont près des rivières, certes, ils peuvent avoir des problèmes quand il manque de l'eau, hein. Mais alors là, le moulin ne tourne pas, mais des fois, il y a des crues. Qui l'eût cru ? Eh bien oui, il y en a. Et en ce moment, vous savez, il y en a. C'est pas neuf, puisque j'ai déjà raconté à cette antenne l'histoire de Yi le fou et de Yi le sage. Et ça, c'est une histoire qui nous est racontée par Chuang Tzu. Allez, je me rappelle plus exactement, ça doit être dans les 300 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est vieux, hein. Il y avait des crues en Chine, hein, le fleuve jaune, hein, vous connaissez sans doute. Il y avait des crues régulières, monumentales. L'empereur a dit à Yi, trouve une solution. Et il a fait des grands travaux, ils ont érigé des digues, et effectivement, pendant quelques années, les crues ont été contenus, jusqu'au jour où il y a eu une crue pire que les autres. Et là, ça a été encore plus catastrophique, puisque une fois que l'eau déborde par-dessus les digues, eh bien, les digues sont emportées, et c'est carrément un raz-de-marée qui balaye les villages, et là, c'est la catastrophe. Alors, Yi, qu'on a appelé donc Yi le fou, a été sévèrement réprimandé. Je ne sais pas si l'empereur ne l'a pas exilé quelque part, mais son fils, qui s'appelait aussi Yi, mais lui, c'est Yi le sage, a dit « Moi, je veux bien essayer ». Et il a fait l'inverse, plutôt que de canaliser avec des digues, plutôt que de renforcer les protections. Au contraire, il a anticipé la crue la plus monumentale en faisant des espaces creusés où l'eau pouvait s'écouler. Et effectivement, on raconte, en tout cas Chuang Tzu raconte, que Yi, qui a été appelé dès lors Yi le sage, le fils de Yi le fou, a réussi à faire en sorte que ces crues monumentales du fleuve jaune soient moins dramatiques qu'auparavant. Et j'ai pensé à ça l'autre jour en écoutant la radio, pas plus tard que hier, je crois, ou avant-hier, hein, où je crois que c'était dans le sud-est, une mère d'un village, hein, mère M-A-I-R-E, là, on ne dit pas la mairesse, la mère, madame la mère, a dit, oh là là, il nous faut racheter les maisons qui sont au bord de la rivière, parce que c'est vrai que vous vous rappelez sans doute, hein, dans les années 50, 60, hein, 70, on a délivré des permis, on a bétonné, on a installé des résidences dans des endroits où les anciens disaient, oui, attention, là, avant, il pouvait y avoir de l'eau. Et maintenant, on se rend compte que, eh bien oui. Alors elle dit, on va racheter les maisons, La plupart des riverains ne veulent pas en entendre parler, mais ils essayent. On va racheter les maisons pour refaire le marécage qu'il y avait là 200 ans auparavant, parce que, explique-t-elle, les techniciens nous ont dit que le marécage boit de l'eau, énormément d'eau, et permet à ce que la crue soit moins catastrophique. On retrouve donc Guy le Fou et Guy le Sage. Les époques se suivent et les problèmes demeurent, et souvent les bêtises restent les mêmes. Donc voilà, on va aussi aujourd'hui parler d'inondations. Il n'y a pas de hasard, les époques télescopes n'en parlera à travers le témoignage de Gilbert Gavens. Mais allez, on lui donne tout de suite la parole.
Ah.
Gilbert et son grand-père. Oui, moulinier au Fraissinet et à la Borde. Pour ceux qui connaissent, c'est en dessous de l'Oze, le long de la Bonnette. Gilbert, il disait, je suis moulinier depuis 400 ans. Comment c'est possible? Eh bien oui, il était né, lui, le 5 octobre 1917, dans un moulin, dit-il, parce que mon papa était meunier, mon grand-père aussi était meunier, et le père de mon grand-père également, et comme ça, en remontant pendant 400 ans au moins. J'aurais dû avoir, dit-il, la même vie que mes ancêtres, partagée entre mon moulin et mes mules. Les mules, on en a parlé la semaine dernière, hein, si vous vous rappelez. Mais les événements de mon époque sont venus me tirer du Quercy pour me faire connaître les horreurs de la guerre, les privations et bien d'autres choses. Et oui, parce que tout en faisant tourner leur moulin, les mouliniers ont dû composer avec les aléas de leur époque. Et c'est ainsi pour tous les métiers, comme s'ils n'étaient pas assez difficiles. Comme ça, les guerres notamment viennent compliquer encore la vie. Ainsi, tous les parcours sont singuliers. Et écoutez donc ce que dit Gilbert de son grand-père. Oh, mon grand-père, il a vu trois guerres. Celle de 70, celle de 14, et puis celle de 39. Il n'en a fait, grâce au ciel, aucune. En 70, il était trop jeune. En 14, il était trop âgé. Et en 39, n'en parlons pas, il avait 90 ans. Mais quand même, trois ouragans comme cela dans une seule vie, même sans être soldat, ça marque un homme. Et oui, son grand-père était fils de moulinier, toujours au même endroit, au Fraissinet, en dessous de l'Oze. Et il a commencé à 13 ans à travailler comme farinelle, on appelle ça. J'en ai déjà dit un mot, ou gaffette, ou farinelle. C'est le petit jeune qui aide au moulin, et qui court quand il faut se dépêcher vite d'aller tirer une vanne, ou d'aller régler le moulin, ou d'aller rajouter un peu de blé dans la trémie. Il a 13 ans donc. Farinelle dans un autre moulin. C'était une bonne formation. Son père ne le gardait pas après de lui. Au début, il apprend un peu, puis après, il l'envoie chez un autre. Comme ça, il n'est pas trop gâté. Il est un peu vissé et il apprend à faire les choses comme il faut. Après 18 ans, c'était le régiment. Et à cette époque-là, c'était 5 ans, le régiment. Tellement bien, dit-il, que bon, c'était un tirage au sort. Ben lui, il a été tiré au sort. Il dit, remarquez, tirage au sort, en fait, ceux qui étaient riches, même s'ils tiraient et qu'ils devaient y aller, ils payaient quelqu'un pour aller à leur place. Il est revenu donc 23 ans, à 23 ans plutôt, j'allais dire 23 ans plus tard, 5 ans après, à 23 ans. Et là, catastrophe, son père était mort. Et le moulin ne tournait plus. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, il y avait eu une maladie qu'on appelle le charbon, la bourbe, qu'avait attrapé les mulets. Les mulets avaient crevé. Plus de mulets, plus de tournées, et plus de clientèle. Et miné, son père est mort. Eh bien, lui, à 23 ans, eh bien, il a tout remonté. Il a réussi à se faire prêter des mulets. Il s'est refait une clientèle et le moulin a tourné, il a fait fonder une famille, il s'est marié, il a une fille qui elle s'est mariée à son tour et chance, son gendre, eh bien, c'était aussi un fils de moulinier. Mais moulinier avant, de Varère. Mais quand même, il a repris le moulin. Donc, le grand-père a s'occupé d'un moulin et le gendre de l'autre. Imaginez un peu. La vallée de la Bonnette. Juste en dessous de l'Ose. Je ne sais pas si vous y êtes allé déjà, mais n'hésitez pas à aller faire un tour à pied. Hein, à pied. Le ruisseau serpente dans des petits prés entourés d'arbres. C'est frais, c'est bucolique. Et il y avait là, à l'époque, hein, c'était 1917, là dont je vous parle, 7 moulins qui tournaient. Le moulin de Carterade, la Luzette, la Borde, le Fraissinette, la Vignasse, la Mouline et la Roque. Il y avait plus de 30 personnes, dit Gilbert Gavens, à cette époque, à vivre de la Bonnette. Et c'est là que je suis né. Le père, donc, de Gilbert, s'occupait du moulin de la Borde et le grand-père du Fraissinette. Seulement, Gilbert a 2 ans seulement quand son père meurt de maladie. Et il n'y avait aucune pension, aucune assurance à cette époque. Heureusement, sa mère était vaillante, mais quand même, elle avait 7 enfants dont il fallait s'occuper. Alors, c'est le grand-père qui a donné le coup de main. Il était là et il s'y est mis. Et les enfants ont aidé vite. Et les 2 moulins ont continué à tourner. Tous les mardis, se rappelle Gilbert, ma mère allait au marché de Caylus, acheter de l'huile, du sel, des allumettes, tout ce qu'il faut pour la maison. Et elle prenait pas d'argent pour y aller. Non, il n'y en avait pas. Mais un poulet ou 2, des lapins, des œufs. Et une fois qu'elle avait vendu ça, elle n'avait pas le temps de rêver à ce qu'elle pourrait faire de cet argent. Elle le dépensait tout de suite. D'ailleurs, dit Gilbert, c'était partout pareil. La basse cour était le portefeuille de la ménagère. Et s'il en fallait plus, si le père, l'homme de la maison était assez couillon pour pas donner assez à sa femme, eh bien on se débrouillait. Et lui se rappelle qu'il vendait du blé en cachette pour la femme. Eh oui, même il se rappelle des fois de certains maris qui chargeaient du blé sans savoir qu'il serait payé en douce à sa femme pour qu'elle puisse assurer les besoins du ménage. Donc c'était pas pour s'acheter des grands chapeaux. Et le souvenir qu'il a de cette époque, Gilbert, ben, c'est celui quand même d'une enfance heureuse. Il aimait le moulin, il se rappelle des soirées au bord de la cheminée à discuter, il se rappelle du civet de lapin que faisait sa mère et qui était réputé. À 5 ans, il rentre à l'école communale. Il se rappelle bien ses 20 élèves, les pupitres en bois, noirs, 3 ou 4 places, un casier, l'encre dans un petit encrier, le porte-plumes, les plumes sergent-major, bien sûr. Et un matin, la dictée, on s'y met. Interdiction de parler patois, hein. Oh, oh. C'est que pourtant, à la maison, on parlait que du patois. Il se rappelle même de la morale. C'était la première chose qu'on faisait en rentrant. Notamment, il se rappelle bien d'une histoire qui l'a marqué. Ces 2 menuisiers qui avaient travaillé toute la journée de travail était finie, ils passent devant un bistrot. Et là, il y en a un qui dit, allez, on va boire un coup. Et l'autre dit, oh non, on m'attend à la maison. Oui, c'est tout l'histoire. Oui, c'est vrai, ça paraît un peu simpliste comme histoire. Mais lui, il rajoute ça. Moi, encore aujourd'hui, je fais le rapprochement. Je n'ai jamais trop fait de bêtises parce que, justement, j'ai toujours su qu'on m'attendait à la maison. Et des fois, je pense à ça et je me demande si, actuellement, avec la vie que les gens mènent, les enfants sont attendus à la maison. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de comprendre la délinquance, les incivilités, beaucoup de choses comme ça, avec cette petite histoire, un souvenir de la morale à l'école communale. Après l'école, ah ben, retour au moulin, et là, on change de tablier. Il y avait un tablier pour l'école, un tablier pour le travail. Et lui, le moulin, ça lui a toujours plu. Maintenant, dit-il, les parents osent même plus demander aux enfants de faire à la vaisselle. Mais lui, il travaillait, il aimait l'école, mais il n'était pas bon écolier, et il n'a pas passé son certificat d'études, non. Et pourquoi? Eh bien, tiens, c'est ça, justement, à cause des inondations. À 12 ans et demi, c'est en 1930. Peut-être il y en a quelques auditeurs qui se rappellent, j'espère. C'est un souvenir marquant pour lui parce qu'il a plu pendant 15 jours sans arrêt et il a vu l'eau monter lentement, c'est vrai, mais sûrement. Et quand l'eau est partie, heureusement, il n'y avait pas grand-chose de cassé, juste le pignon de la grange qui avait été emporté. Mais par contre, les canaux qui amènent l'eau pour le moulin, ils étaient remplis de gravier. Et là, c'est impossible de faire tourner les moulins dans ces conditions. Alors, ils se sont mis au boulot. Comment le père était mort? Ben, c'est le grand-père qui s'y est mis avec deux de ses amis. Mais ces deux amis, ils étaient vieux comme lui. Et Gilbert, lui, qui avait 12 ans et demi, à la pelle. Ils ont travaillé à déblayer les canaux de mars jusqu'à novembre. Et c'est pour ça qu'il a arrêté l'école. Mais il est fier. Il est fier de ce premier gros travail. Et quand le moulin a tourné à nouveau, eh bien, son grand-père, plutôt que de le renvoyer à l'école, il l'a mis au boulot. Il a fait les tournées. Oui, parce que le grand-père, il préférait s'occuper du moulin. C'est délicat, un moulin. Il faut savoir le faire tourner. Et oui, il faisait les tournées tandis que son grand-père était au moulin. Et quand il disait au grand-père, mais je sais pas où ça se trouve ça, et lui, il lui disait, le grand-père, quand tu reviendras, tu le sauras. Ça voulait dire « démerde-toi ». Et ça marchait, puisque peu après, dit-il, il connaissait toutes les catounières du pays et la couleur de tous les sacs de blé des fermiers du pays, parce que chacun avait sa couleur. Ainsi, sa vie a toujours tourné autour du moulin. À 16 ans, quand même, il a eu un peu envie de bouger, un peu envie de partir. Il a entendu dire que une minoterie se montait à Limogne et il cherchait des gars de la partie. Il en a parlé au grand-père. Ouh, 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 pensez, le grand-père l'a très mal pris. Et il lui a dit, quoi? Tu veux aller dans cette minoterie là-bas, toute moderne, alors que ces minoteries, c'est la mort des mouliniers? Et Gilbert est resté au moulin de 16 ans à 20 ans. Et il a appris le métier sans apprendre, juste en observant le grand-père, la mère et la grand-mère, et puis faire à son tour. Il y avait 7 meuniers dans la même commune. Ils étaient concurrents, mais amis, dit-il. Et oui, et la vallée de la Bonnette, c'était une vallée heureuse. Gilbert se rappelle de l'Oze à cette époque. Il dit que c'était un village très vivant. On est dans les années 30, là. Hein. 400 habitants, aujourd'hui il y en a une centaine. Des agriculteurs, bien sûr, en majorité, mais il y avait 7 ou 8 artisans, il y avait 7 ou 8 forgerons, parce qu'il y avait 50 paires de bœufs affairés. Hein, ça fait du monde. Il y avait tonneliers, tisserands, maçons, charpentiers, épiciers et bien sûr, mouliniers. Sans parler qu'il y avait déjà le camp militaire. Et les soirs, tout le monde faisait un peu buvette pour les soldats en goguette, parce qu'ils partaient se balader, ils faisaient une partie de cartes là, et demandaient un litre de vin, et puis après, ils dormaient tous dans la paille. Ils se rappellent de cette époque avec bonheur, du moment du dépiquage, le moment où on tuait le cochon, la fête votive. Il dit qu'il y avait vraiment une vraie communauté, une vraie fraternité. C'est vrai que aujourd'hui, ça fait rêver. On verra. Alors, ben oui, on est arrivé au bout de l'émission. Hein. Désolé, mais c'est comme ça. Il y en aura encore une autre où on verra ce qui s'est passé, parce que là, on est dans les années 30, on approche de la guerre. On verra ce qui lui est arrivé lorsque il a dû partir. Et voilà, on a bien tourné avec les mouliniers, mais ce n'est pas fini. Je vous dis donc à la semaine prochaine. C'était Marco, compte à rebours. Portez-vous bien.